les performances du métro sur pneus se révèlent nettement supérieures à celles du métro classique.
Madame, monsieur, bonsoir. La première classe dans le métro, trois bonnes raisons pour la supprimer et la classer au rayon souvenir.
Cette mise en service de Météor est un véritable événement. C'est la première ligne de métro créée depuis 1935.
Train de vie sur RCN, Martin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Train de vie. Aujourd'hui, nous allons continuer d'avancer dans l'histoire du métro parisien. Après avoir vu la création de la compagnie concurrente à la construction du réseau au début des années 1910, arrêtons-nous cette semaine en 1914, lors du début de la Première Guerre mondiale. En effet, nous allons parler du métro parisien pendant les deux guerres mondiales. La guerre a fortement impacté l'organisation du métro parisien, qui ne s'est pas arrêté de tourner. Lors de la mobilisation des soldats fin juillet 1914 et en septembre 1939, il a fallu repenser toute l'organisation de ce monde souterrain. Les hommes sont réquisitionnés pour aller au combat et il a fallu composer avec les effectifs restants disponibles pour faire fonctionner le métro. Les femmes qui n'avaient pas accès à certains métiers dans la mécanique notamment et à la conduite des trains sont formées en quelques jours pour prendre le relais. Pour éviter d'éventuels bombardements et des pénuries d'électricité, l'éclairage est réduit. Et tout particulièrement sur les sections aériennes, les lignes 2 et 6. Les souterrains, eux, étaient déjà bien sombres à l'époque. Ils le sont encore plus. La fréquence des trains est réduite légèrement pour s'adapter au personnel disponible. Lors de la Première Guerre mondiale, le réseau est composé de 90 km de voies contre 215 aujourd'hui. Et 150 stations sont déjà présentes, soit la moitié du réseau aujourd'hui. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le réseau fait déjà près de 160 km et près de 250 stations. Lors de cette deuxième guerre, seules 85 stations restent ouvertes. De plus, les lignes aériennes 2 et 6 sont fermées au public pour éviter les accidents en cas de bombardement. Beaucoup de ces stations ouvrent à nouveau dans les semaines suivantes suite au retour d'une partie des employés partis à la guerre. Mais une dizaine de stations resteront fermées, ce sont les fameuses stations fantômes qui feront l'objet d'une chronique dans les semaines à venir. En 1940, le réseau connut sa plus faible fréquentation avec seulement 300 000 voyageurs suite au départ des Parisiens de la capitale. Mais dès l'année suivante, la fréquentation remonte et atteint même le milliard de voyageurs annuels. Lors de l'occupation allemande, les Allemands avaient des avantages concernant l'accès au métro. Pour les soldats, le métro était gratuit pour tous les soldats portant l'uniforme allemand. Les civils allemands, eux, voyageaient automatiquement en première classe. Ces avantages étaient régis par un commandant allemand qui donnait les ordres à la CMP, la compagnie du métropolitain de Paris. Le métro parisien a également été le théâtre de plusieurs incidents entre Français et Allemands. On en recense 325 entre 1941 et 1944 comme des rixes ou des coups de feu. Les agents du métro parisien avaient l'obligation de bien accueillir les Allemands et de maintenir l'ordre dans les souterrains en cas de conflit. Mais une des mesures les plus choquantes est celle mise en place au printemps 1942 concernant les Juifs. Ces derniers n'ont plus accès à la première classe et doivent acheter un billet de seconde classe et se placer dans le wagon de queue de la rame. L'exploitation du réseau pendant la guerre n'a pas été de tout repos, surtout lors de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs bombardements ont eu lieu au cours de la guerre et la voûte de la station Saint-Plon s'est effondrée. L'atelier de Vaugirard, qui entretient et gare les rames la nuit, a lui aussi été bombardé et beaucoup de ces rames ont été détruites et rendues inutilisables. L'atelier de Saint-Ouen subit le même sort peu après. Un autre bombardement eut lieu entre les stations Ménilmontant et Couronne, qui fait effondrer la voûte du tunnel. Et j'aimerais attirer l'attention sur ce qui est le fruit du hasard. La station Couronne avait déjà été le théâtre du plus grand drame du métro parisien en 1903, dont j'avais parlé dans une chronique précédente. Et la station Saint-Plon, elle aussi, subit en 2005 un léger incendie. Ces stations sont décidément maudites. Pendant la Seconde Guerre mondiale également, les stations les plus profondes ont servi d'abri pour les habitants en cas de bombardement ou d'attaque. En 1944, les Allemands ont démonté complètement les voies de la ligne 11 pour y installer une usine de matériel pour la guerre. Les voies seront remontées ensuite à la fin de la guerre. Pendant cette période, les travaux de construction du métro ont été ralentis. Seuls deux prolongements ont vu le jour, à l'ouest de la capitale, vers Charenton et Pantin. Après la guerre, les besoins de transport ont évolué et certains projets d'expansion de certaines lignes en banlieue sont abandonnés. La voiture connaît à ce moment-là sa grande expansion. Après la guerre et la période de la voiture, le trafic va stagner environ une vingtaine d'années jusqu'en les années 1970. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Train de vie s'achève. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler d'une technologie révolutionnaire pour le métro parisien, le métro pneumatique. Rendez-vous la semaine prochaine. Cette chronique ainsi que les précédentes sont disponibles en podcast sur rcn-radio.org. Et moi, je vous dis à bientôt dans le métro.